Des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Academy.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Jacques Le Goff, bonjour. Nous sommes mal partis parce que je crois que vous avez horreur de parler de vous-même.
En effet, ceci pour deux raisons. Je dois honnêtement d'abord avouer que j'ai trahi cette détestation deux fois. Pierre Nora, qui est un très cher ami...
qui est à l'Académie française.
Oui, ce n'est pas ce qui en lui m'attire le plus, mais il en avait envie, tant mieux qu'il y soit. Il m'avait fini par me convaincre de participer à une série de déclarations de certains historiens qu'il a publié dans un volume sous le titre de « Égo-histoire ». Alors, je dirais que même ce titre indique une des raisons pour lesquelles je n'aime pas parler de l'autobiographie, parce qu'il y a une sorte de nombrilisme dans l'autobiographie. Je ne me renie pas, je ne vis pas mal avec moi-même, je vis douloureusement, je me permets de le dire, depuis 4 ans, où ma femme est morte d'une façon extrêmement brutale.
On en parlera tout à l'heure avec la Pologne. Avec votre, oui. Bon, donc vous n'aimez pas l'ego, mais oui. Et quelle est la deuxième
d'autre
raison
part, oui. Je suis sûr, d'après les exemples assez nombreux que je peux avoir et où je connais, si je peux dire, le fameux de l'affaire, dans l'autobiographie, la principale chose que l'on fait, c'est mentir.
Oubliez.
L'autobiographie, mentir. L'autobiographie me semble même avoir été inventée pour laisser consciemment de soi une image qui n'est pas l'image véritable. Alors, pour moi, c'est le genre du mensonge.
Mais y a-t-il une seule image? Finalement, dans un parcours et dans une figure humaine, il y a bien des images.
Oui, mais laissons à d'autres le soin de la montrer. Et d'autre part, donnons une image de nous à travers une œuvre dans laquelle nous parlons des autres et pas de nous, parce qu'il y a aussi notre image qui passe là-dedans.
Alors là, vraiment, là, vous avez rempli votre rôle, parce que Dieu sait s'il y a des ouvrages où vous parlez des autres et d'un autre temps, qui est donc le Moyen-Âge. Moi, je me rappelle vous avoir découvert, parce qu'on a toujours finalement une découverte d'un historien, avec le Purgatoire. Au fond, pour moi, ça a été un de vos livres les plus originaux. Peut-être ça n'est pas la vie de tout le monde.
Vous me faites un très grand plaisir, ma chère Elisabeth, parce que c'est ce que je préfère de ce que j'ai écrit.
Ah, même plus que le Saint-Louis.
Ouais.
Bon. Alors,
le Saint-Louis, vous savez, j'en dis un mot, c'est un peu un exercice de style. Hein. C'est fait un
mais
peu 16
ans de recherche, si j'ai compris.
Oui.
16 ans.
Oui, mais j'aimais justement vivre et montrer ce que peut être une recherche approfondie et comment. Ça, c'était une réflexion que nous avions faite et que nous avons d'ailleurs écrit dans un article ancien avec mon ami Pierre Toubert, qui a été professeur au Collège de France. C'est qu'un grand personnage est probablement le thème historique qui permet d'aller le plus à fond dans une période. Ça semble paradoxal, mais on parle le mieux de l'ensemble d'une société à travers un personnage, évidemment pas n'importe qui, bien que Jules Romain ait écrit un très beau roman qui est peu connu, qui m'avait passionné quand je l'ai lu dans ma jeunesse, qui s'appelle « Mort de quelqu'un ». Et qui montre comment un personnage tout à fait insignifiant, après sa mort, en fait, laisse des souvenirs dessus, de lui, produit diverses ondes, et donc que personne ne sombre dans un néant total. Bon, alors je reviens à ça. Donc, le Saint-Louis, je l'ai écrit avec plus d'intérêt que de passion.
Alors, et le purgatoire?
Le purgatoire, si, parce que dans le purgatoire, il y a trois choses qui m'ont passionné. Un sujet de mon séminaire, il y a longtemps donc, c'était la lecture, la traduction et le commentaire de récits de voyages dans l'au-delà, qui est un genre que le Moyen-Âge a chéri à partir du 7e siècle, à partir de l'anglais Bède, et qui est la forme de la Divine Comédie, d'ailleurs. C'est le voyage dans l'au-delà. Et alors, nous lisions, nous traduisions, nous commentions ces voyages dans l'au-delà. Et nous rencontrions, dans la plupart de ces récits, un lieu pas défini où le voyageur dans l'au-delà côtoyait une région bizarre qui se trouvait près de l'enfer, qui se trouvait sous terre et où il y avait des gens qui n'étaient pas damnés, mais qui étaient condamnés à une souffrance pendant un certain temps.
Attendre,
et ensuite,
surtout.
Oui, et ensuite, y aller au paradis. Alors, bon, ce thème qui était intéressant s'est révélé encore plus intéressant quand, à partir du milieu du XIIe siècle, nous nous sommes aperçus que cette région qui n'avait pas de nom recevait un nom et que ça s'appelait le purgatoire. Et nous nous sommes aperçus que, à partir de ce moment-là, l'Église a de plus en plus enseigner l'existence de ce purgatoire qui a été finalement reconnu comme un dogme du christianisme au Second Concile de Lyon en 1274. Et alors, je me suis posé la question, mais pourquoi ?
Pourquoi cette invention ?
Créer un troisième lieu de l'au-delà qui jusqu'alors se bornait à une séparation forte, un véritable affrontement
depuis les Grecs,
entre l'enfer et le paradis.
Bien sûr.
Je crois d'ailleurs,
même avant les
d'après mon explication, qui montre que, en fait, on est obligé de comprendre tout ce qui s'est passé pendant cette période si riche, à partir de la fin du XIIe siècle, pour comprendre que le purgatoire en ait été une des créations. Et en particulier, il y avait le fait que les chrétiens, puisque les hommes et les femmes étaient tous plus ou moins pieusement chrétiens à ce moment-là, si nous mettons à part les juifs qui malheureusement commençaient à être l'objet de persécutions, mais enfin, dans la majorité de cette population qui était chrétienne, c'était le besoin que l'humanité et l'univers ne se réduisent pas à l'affrontement de deux extrêmes, de deux ennemis, en quelque sorte. On le voyait, par exemple, dans la description de la société, où entre les paysans et les seigneurs s'introduisaient les bourgeois, qui venait au milieu et où même il y avait cette belle expression de médiocresse, qui ne veut pas dire médiocre, mais du milieu, de gens du milieu, et donc un au-delà du milieu. Et en plus, un au-delà temporaire.
Ce qui donne un espoir phénoménal, bien sûr.
Oui. Et qui était une véritable révolution de la conception de l'au-delà. En même temps, il y avait des problèmes de comptabilité. Je montrais comment la naissance du purgatoire a été aidée par de nouvelles traductions beaucoup plus exactes des éléments d'Euclide, hein, de vos chers Grecs, ma chère Elisabeth. Et je pense donc que le purgatoire est une invention révolutionnaire du Moyen-Âge et je déplore beaucoup que l'Église actuelle, non seulement une église, mais pratiquement le jette aux orties.
Il y a, je crois, une congrégation de femmes qui s'appelle les âmes du purgatoire.
Ce qui m'a certainement aussi aidé à choisir ce sujet, c'est que ma mère, qui était très pieuse, était membre effectivement d'une association qui s'appelait Association des âmes du purgatoire.
Voilà. Oui.
Et il y avait des hôtels, les âmes du purgatoire, etc.
Et je crois d'ailleurs que c'est une d'obédience jésuite. Oui. Puisque les jésuites sont toujours à adoucir quand même les choses.
Parfaitement. Ah, les jésuites ont compris l'intérêt, si je peux dire, qu'on pouvait y avoir.
De négocier le tournant.
Oui.
Alors pour revenir quand même à votre vie dans l'ordre, si je puis dire, mais dans l'ordre de l'histoire, c'est pas pour vous demander vous
alors,
ce que vous avez vécu.
Je suis né.
Donc
vais,
vous êtes né d'abord, bien sûr.
Je vais quand même donner quelques éléments autobiographiques.
Oui.
Je suis né le 1er janvier, ce qui est vrai.
1924. Capricorne.
Et dans mon enfance, l'événement peut-être qui m'a le plus marqué, parce que autour de moi, presque tout le monde en parlait, et je sentais que la plupart des gens, les familles en particulier, vivaient encore sous le coup de ce souvenir, c'était la guerre de 14-18.
Oui, vous aviez
c'était
finalement
la guerre de 14-18 que mon père avait faite. Il y avait des familles qui avaient perdu des enfants, des jeunes, des moins jeunes, à cette guerre. Il s'était formé en même temps une image très négative de l'Allemand. Autour de moi, on disait les Boches. Mais mon père, qui avait fait très valeureusement cette guerre, qui avait été à Verdun, m'interdisait de prononcer le mot Boche, ce qui d'ailleurs allait très tôt dans le sens de ce qui m'a plu. Oui, bon, ce qui m'ennuie, c'est que parlant de moi, je suis amené à faire presque mon éloge. Mais enfin, il est clair que j'ai détesté tout ce qui a été racisme. Et à l'âge de 13 ans, parce que je vivais dans une ville très raciste.
Oui, à Toulon, oublié de dire que vous êtes né à Toulon quand même.
Je suis né à Toulon, oui.
Ah bon, c'était raciste.
Du point de vue social, ville horrible.
Ah oui.
Et ville dont je déteste le souvenir.
Jusqu'à aujourd'hui.
C'était une ville raciste où il y avait deux casernes, l'une avec des Africains qu'on appelait Sénégalais, l'autre avec des Vietnamiens qu'on appelait Atlamites, mais on était aussi raciste contre les Espagnols, contre les Italiens qu'on appelait tous Piémontais, ce qui était en fait une injure. Et j'étais tellement effaré de vivre parmi ces racistes qu'à l'âge de 13 ans, j'ai demandé à m'inscrire à l'Association contre le racisme et l'antisémitisme.
Ah bon, déjà ?
Oui. Oui. Alors, voilà le.
Oui, d'ailleurs, quand vous aviez 13 ans. Attendez, quand vous aviez 13 ans, ça n'est pas neutre non plus. C'était 38, 37.
Oui, alors.
1937,
là,
quand même.
Arrive là, c'est pas neutre. Premier événement que je vis moi-même. Oui. Parce que la guerre de 14-18, c'était le oui-dire. C'est le Front populaire. Et je peux dire que je suis né avec le Front populaire.
J'avais 12 ans.
J'avais 12 ans, mais on peut naître idéologiquement à 12 ans.
Et donc, alors c'est intéressant parce que c'est la même année.
Les manifestations, j'entendais parler, je voyais dans les journaux, j'entendais à la radio, les premiers congés payés, etc. Et c'est le souvenir du plus bel événement.
Alors c'est la même année que l'année où vous découvrez Ivan Noé. C'est intéressant.
Oui, c'est vrai,
c'est curieux.
Oui. C'est vrai.
Bon, et qu'est-ce qui vous a tellement séduit dans le Front populaire ? Parce que, après tout, est-ce que vos parents étaient pour ? Est-ce que
mes parents étaient plutôt de gauche.
Oui. Vous étiez à Toulon toujours.
Oui. Mes parents étaient plutôt de gauche. Ouais. L'immeuble où nous vivions était près de la Bourse du Travail, où il y avait beaucoup d'animation, de manifestations, d'ouvriers. Non, ce qui m'a plu, c'est que le Front populaire essayer de faire reculer la domination des riches, des puissants, et de créer une sorte de fraternité, de solidarité générale. C'est là que j'ai eu l'impression qu'il pouvait y avoir un peuple français, alors que j'avais vu combien certains Français pouvaient être portés vers ce qu'on appelait à ce moment-là déjà le fascisme, tellement Mussolini dominait en Italie, qui a été le 6 février 1934.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que bon, donc le fascisme vous fait horreur, mais d'un autre côté, et là je fais un bond juste après la guerre, lorsque vous êtes à Prague, vous allez voir en 1948 le coup de Prague, et là vous allez avoir pour toujours, vous allez être vacciné, dites-vous, contre le communisme. Ben donc oui. Les deux extrêmes...
J'ai eu la chance d'être, si je peux dire, immunisé contre le fascisme et contre le communisme, mais de rester, ça c'est l'empreinte du Front populaire, de rester, je me dis encore, je me permets de le revendiquer, un homme de gauche.
Est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a deux choses que vous dites. L'une, c'est que vous êtes agnostique souvent, et l'autre, c'est que vous êtes un homme de gauche. Est-ce que ces mots ont toujours le même sens aujourd'hui?
Non, bien sûr, ça a évolué, mais ça veut quand même dire, vous savez, on se définit souvent contre autant que pour, d'être contre la droite. Et par conséquent, la droite politique, telle qu'elle est actuellement représentée, en particulier par cet agglomérat de l'UMP, me dégoûte. Mm-hmm.
Oui.
Donc, j'ai mis cela, puis ensuite, je vis une troisième épreuve. Cette épreuve, c'est celle de la guerre, que je ne vis pas de très près parce que mon père n'a plus l'âge d'être mobilisé, moi je ne l'ai pas encore. Toutefois, les Italiens, en mai 40, pour montrer qu'il existait, croient bon de venir bombarder Toulon. Et nous devons descendre dans les caves. Et mon père, ayant une très mauvaise santé, le médecin vous dit, écoutez, vous êtes à la retraite, à mon père. Mon père est à la retraite. Vous êtes à la retraite, rien ne vous attache à Toulon. Vous devrez quitter Toulon. Et il se trouve que là, j'avais un très bon ami qui était dans les Basses-Alpes, à Seine-les-Alpes, entre Digne et Barcelonnette, et nous sommes allés nous établir dans ce gros village alpin. Mes parents étant là, je suis allé comme pensionnaire en Cagne, à Marseille.
À Louis-le-Grand, non ? Ah oui, à Marseille d'abord.
En Cagne, oui. À Marseille. Et en 1943, je suis remonté dans les Alpes, cette fois-ci, pour ne pas en redescendre. J'ose à peine le dire, parce que c'est un maquis qui ne s'est pas battu, où il n'y avait pas de risque, etc. Où souvent, je descendais coucher chez mes parents dans le village où ils étaient. Mais j'ai quand même vécu très fortement, et j'ai là un souvenir personnel le plus désagréable de ma vie, parce que j'ai vu ce qui reste pour moi, pendant ma vie, le moment le plus dégoûtant de la France officielle, ça a été le pétainisme. Et le souvenir, c'est que en 1941, j'étais encore au lycée de Toulon, en classe de philosophie, et pour le 1er mai, Pétain vient à Toulon. Et on décide que un certain nombre de collégiens et de lycéens vont défiler devant lui. Et dans ma classe, je m'étais le premier de la classe, le prof me dit, c'est vous qui irez? Et je réponds, non, je n'irai pas défiler devant Pétain. À la sortie de la classe, un de mes camarades me prend dans un coin et me dit, je te conseille d'aller défiler, parce que si tu n'y vas pas, il y aura de gros ennuis pour toi et ta famille. Ce garçon s'est engagé plus tard dans la Légion. Il a été fusillé à la Libération, dont je ne me réjouis pas, mais Mais enfin, j'ai vu donc ce régime qui a été vraiment le plus dégoûtant. Et c'est là en même temps ce qui a accentué la distance que je prenais avec le catholicisme. Cette distance, je la prenais pour...
Qui était catholique dans la famille, puisque vous avez parlé?
Ma mère.
Oui, ah voilà, oui.
Je le faisais pour des raisons personnelles, idéologiques, intérieures.
Elle était d'origine bretonne ou pas? C'est votre père qui était d'origine...
Mon père était breton. Breton, oui, de Gorf. Ma mère était d'origine italienne.
Voilà, oui. Donc bien sûr, catholique, oui. Et donc, vous prenez vos distances avec le catholicisme?
Je prenais mes distances et je les ai prises définitivement quand j'ai vu l'attitude de l'Église catholique, qui, il faut bien dire, majoritairement, a été pétainiste d'une façon dégoûtante. Il ne faut pas l'oublier.
Ah, il y a quelques évêques parmi les justes.
Il y en a eu quelques-uns. L'archevêque de Toulouse, l'évêque de Montauban.
Oui.
Il y en a eu quelques-uns.
Donc vous prenez vos distances.
Et en même temps, il y avait cet affreux pape dont, que l'on parle de béatifié aujourd'hui. Je ne dis pas comme malheureusement je suis cloué à mon fauteuil que je vais me lever contre, mais j'espère bien qu'il y aura des
manifestations. Ça serait un miracle, remarquez.
Et des pétitions pour empêcher que cette merde soit béatifiée. Il en trouverait d'autres.
Bon, Jacques Le Goff, avant de poursuivre, on va interrompre quelques secondes pour reprendre notre souffle.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademie.com.
Alors nous reprenons avec Jacques Le Goff. Nous étions dans l'histoire de votre parcours historique dans l'histoire de ce siècle. Quelqu'un a parlé du siècle de Jacques Le Goff, j'ai trouvé ça très beau. Oui, a titré, je crois, dans Le Monde, le siècle de Jacques Le Goff. Donc, dans le siècle de Jacques Le Goff, nous sommes à la fin de la guerre, et il y a un personnage qui va jouer un grand rôle dans votre vie, puisque vous êtes un des animateurs et des hommes des annales. C'est Marc Bloch. Marc Bloch.
Oui, ça sera beaucoup plus tard. Hein.
Oui, bien sûr. Mais Marc Bloch date de...
Oui, mais Marc Bloch, malheureusement,
vous
je ne l'ai
pas
connu,
bien sûr.
Je n'ai pas suivi ses cours. Et je n'ai même appris qu'un peu plus tard, son nom...
Ah bon, c'est un peu plus tard que vous avez appris son nom et son
oui,
œuvre.
Quand je préparais la rédaction.
Alors, rappelons qui c'était, parce que
alors,
tout le monde ne le sait pas.
Ce que je dois dire, parce que vous avez fait une allusion... Mais ça aussi, je tiens à le dire. Je prépare l'école normale après la guerre, cette fois-ci au lycée Louis le Grand. J'entre à l'école normale en 1945. Et au cours d'un voyage de normaliens qui avait été invité dans la zone d'occupation française, qui était dans le sud de l'Allemagne et dans le Tyrol, en Autriche, je rencontre un jeune officier qui était normalien, et qui me dit « Est-ce que tu ne pourrais pas me rendre un service ? Je sais qu'on crève de faim en France. Ici, d'une façon que je dois dire un peu dégoûtante, nous avons tout ce qu'il nous faut parce que nous le prenons nous-mêmes sur les gens du pays. Et je voudrais te faire porter, tu verras, c'est un tout petit paquet dans lequel il y a la charcuterie, je ne sais pas quoi. » Et le porter à mon frère. On dit, tu verras d'ailleurs que c'est un type intéressant. Il vient d'entrer aux relations culturelles au Quai d'Orsay. Tu peux parler avec lui si ça t'intéresse. Je vais donc porter ce paquet. Et le jeune fonctionnaire en question, qui était tout à fait très sympathique, me dit, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Je lui dis, vous savez, moi j'ai l'intention de faire une agrégation d'histoire. En m'intéressant surtout au Moyen-Âge, mais après, je ne sais pas, je pense une carrière normale qui est allée enseigner. Et il me dit, écoutez, je voudrais vous faire une proposition, c'est qu'il y a un pays auquel nous allons particulièrement nous intéresser. C'est la Tchécoslovaquie. Parce que nous y avons une très mauvaise image, ayant complètement abandonné ce pays auquel nous liait un traité en 1938. Et par conséquent, nous allons avoir des bourses pour des étudiants. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire avoir une bourse pour un an à Prague. Donc, je vais à l'école normale, je fais ma licence, et puis il y a ce qui correspond à la maîtrise et au master actuellement, et qui était le certificat d'études supérieures, et j'ai l'idée d'aller le faire à Prague. J'en parle à mon directeur de thèse, qui était un professeur à la Sorbonne, pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance, Charlène Montperrin, et je lui dis, monsieur, j'aimerais bien un sujet que j'aille faire en Tchécoslovaquie. Ah, il me dit, écoutez, puisque vous vous intéressez à l'histoire des universités, je vous propose d'aller travailler sur un thème sur lequel l'essentiel de la documentation sera en latin, car bien que je lui avais dit que j'avais suivi des cours de langue tchèque à l'école des langues orientales, vous n'êtes pas capable de vous débrouiller dans des documents en tchèque. Et je vous propose, car on ne sait pratiquement rien dans la bibliographie française, sur la fondation de l'université de Prague par l'empereur Charles IV, roi de Bohême, en 1347-1348. J'étais déjà allé faire un voyage d'étudiant à Prague et j'avais été ébloui par la beauté de cette ville. Alors j'étais ravi, je vais donc à Prague, j'habite dans un foyer d'étudiants, une cité universitaire, où il y avait quelques étudiants qui parlaient français, moi je me ragouinais un peu le tchèque, et c'est alors que survient le fameux coup de Prague, c'est-à-dire la mainmise de l'Union soviétique et des communistes sur le pays. Je me rappelle très bien, j'étais en février 48, il faisait un froid de loup, j'avais d'ailleurs acheté une toque en fourrure, et j'étais sur la place du Vieux Marché, où il y avait le grand discours de Gottwald annonçant l'instauration d'un régime communiste en Tchécoslovaquie. Et alors, où j'ai eu, si je puis dire, de la chance, c'est que, vivant parmi les étudiants tchèques, ceux-ci m'ont raconté leur réaction. Et très vite, ce qu'on a appelé depuis le communisme réel, s'est mis en place. Et la fin des libertés. Près du foyer où j'étais, des ouvriers du bâtiment se sont mis en grève aussitôt. Un membre du parti est venu, leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez donc pas faire grève contre vous-même, etc. etc. J'étais à Prague quand on a annoncé la défenestration mystérieuse de Masaryk, et je suis donc revenu de Prague avec une idée précise sur ce qu'était communisme réel. Et par conséquent, j'ai été vacciné.
Pourquoi pensez-vous jusqu'à ce jour que le livre noir du communisme, par exemple, soit tellement honni que personne ne veuille entendre et que tous ceux qui se sont chargés de dire quelques vérités quand même, j'en fus avec droit d'asile en Union soviétique, ont été honnis, chassés, interdits de télévision et de parole quand même. Comment l'expliquez-vous?
Bon, d'abord, il y a une chose, vous êtes peut-être trop jeune pour vous en rappeler, mais le Parti communiste était puissant dans la France après la guerre. Il était au gouvernement jusqu'à ce qu'il en soit chassé en 1948 précisément, je crois. Et aux yeux de beaucoup de jeunes intellectuels, il était très fascinant. Parce que il faut bien dire que le reste de la classe politique, c'était assez moche. il n'y avait plus de droite véritable, de droite convenable. Le MRP s'est rapidement effondré dans la nullité.
De Gaulle le raconte très bien, d'ailleurs en 1946, dans ses notes, oui.
Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens comme moi ont voulu absolument éviter, et pour eux et pour la France, le communisme, mais n'ont pas voulu se mettre dans une position trop hostile qui aurait fait d'eux des gens de droite, vous voyez. Je pense que c'est ça.
Au prix de 200 millions de morts, quand même. Alors, vous jouez aussi, là je bondis un petit peu dans le temps, bien sûr d'abord c'est votre premier grand livre de, au fond sur le Moyen-Âge, c'est « Marchands et banquiers au Moyen-Âge et les intellectuels au Moyen-Âge ».
Oui, je peux, 1957, vous voyez, maintenant que vous m'avez lancé sur ma vie, il y a deux ou trois petites choses qui sont des choses objectives, que je voudrais dire, c'est que j'avais donc passé un an à Prague.
Oui. Donc ça, c'est 48.
48.
Oui.
En 51, juste après l'agrégation, on m'offre une bourse dans un collège d'Oxford.
Et ah oui. Oui, j'ai vu ça. Oui.
Je suis doublement intéressé. D'abord parce que comme je voulais étudier les universités, Oxford. Et d'autre part parce que mon anglais n'étant pas fameux, c'était une occasion de parler. Alors là, ça a été l'année la plus mortelle de ma vie. Je ne m'étendrai pas là-dessus. J'ai trouvé que la vie des Anglais, au moins à cette époque, était insupportable. Le régime des collèges était insupportable.
Mais qu'est-ce qu'il y avait d'insupportable ? On s'ennuyait.
Hein ?
On s'ennuyait ?
Ah oui, on s'ennuyait. Puis alors, il y avait quand même une discipline très forte. Ah, et puis des choses comme, par exemple, au début du dîner dans le réfectoire, on faisait une prière debout.
On ne mange pas de pain.
Les filles, il fallait s'en tenir éloignées. Il n'y avait que deux collèges qui leur étaient réservés et la séparation des sexes était très, très réglementée. Hein.
Vous qui aimez les policiers, vous n'avez pas vu l'inspecteur Morse, qui est une série policière
J'en ai vu quelques-uns. Oui.
Est-ce que ça vous rappelait votre vie à Oxford ?
Non.
Oui, il n'y avait pas d'inspecteur Morse à l'époque.
Non, il n'y avait pas d'inspecteur. On m'a dit d'ailleurs que la vie s'y est ensuite beaucoup descendue. Hein. Mais moi, je l'ai vu à un moment. C'était... Alors, ce qui était d'autant plus terrible, c'est que le gouvernement travailliste, qui était au pouvoir à ce moment-là, avait donné beaucoup de bourses, justement, pour un peu démocratiser ces hauts lieux universitaires aristocratiques. Mais les jeunes de parents modestes qui avaient eu des bourses voulaient en faire plus que les fils d'aristocrates. C'est-à-dire que c'était invivable.
Alors vous êtes rentré à Paris après ?
Alors je suis rentré à Paris et j'ai eu ensuite une autre chance, c'est qu'on m'a offert une année à l'école française de Rome.
Ah oui, ça c'est merveilleux.
Et alors là, c'était vraiment le jour et la nuit. Autant je me suis barbé, irrité à Oxford, mais j'ai beaucoup travaillé pour moi. J'ai beaucoup lu, comme la vie, ce qu'il y avait de vie sociale m'était insupportable, j'ai beaucoup lu.
Et là, vous vous retrouvez dans la patrie de votre mère, en Italie.
Oui, et puis surtout, je me suis trouvé dans une ville merveilleuse et dans un style de vie qui me convenait parfaitement. Voilà, alors ensuite j'ai la chance d'être admis par Fernand Braudel à l'école d'études en sciences sociales. J'étais devenu historien, si je veux, dans la lignée des annales. C'est pendant cette décennie.
Alors dites un mot des annales quand même. Qu'est-ce que c'était pour les gens qui ne savent pas?
Alors les annales étaient une revue d'histoire et de sciences sociales fondée en 1929, par deux grands historiens, Lucien Febvre et Marc Bloch, Lucien Febvre moderniste, comme on dit, et Marc Bloch médiéviste, et qui voulait rejeter l'histoire événementielle, l'histoire institutionnelle, extrêmement ennuyeuse, l'histoire de l'école des chartes, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais enfin, c'est une autre question, du 19e siècle, et faire une histoire proche des sciences sociales, proche de l'anthropologie, proche de la sociologie, qui faisait aller-retour constant du passé au présent et du présent au passé.
Et alors c'est là, c'est intéressant parce que vous avez modulé ça différemment. Bon, vous partez du courant brodélien, etc. Et peu à peu, d'ailleurs dans Saint-Louis on le voit, vous aménagez ça, vous faites quelque chose de plus logophien, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que les annales, vous ne vous tenez pas à la lettre des annales, semble-t-il.
Alors, je dois dire que je crois pouvoir dire franchement que s'il y avait aux annales une façon de faire l'histoire qu'on ne voulait pas, il n'y avait pas de façon de faire l'histoire imposée. Et par conséquent, les historiens qui lisaient les annales, qui s'en inspiraient, étaient très libres dans leur recherche et dans leur interprétation de l'histoire. Les annales permettaient à la personnalité historique de l'historien de s'épanouir. Ça, c'est une chose tout à fait essentielle. Et c'est là que, parmi le peu d'événements dans ma vie que j'ai à dire, se produit un événement extrêmement important, c'est que Fernand Braudel, qui était le directeur des annales, quitte la direction et la confie un triumvirat, si je peux dire, Emmanuel Leroy-Ladurie, Marc Ferraud et moi. Et je suis toujours à la rédaction des annales. Je continue à lire
quel
tous les articles.
Oui.
Voilà les articles de ce mois-ci. Oui. Ils sont là.
Oui, alors je le dis pour ceux qui ne voient pas, il y a toute une pile. Oui.
Alors ça, et puis il y a un autre événement qui est lié à Fernand Braudel aussi. Fernand Braudel, en 1957, après le retour du chef communiste polonais Gomulka, qui avait été considéré par les soviétiques comme un hérétique et qui avait été mis en prison en Russie. On le libère en 1956. Il rentre en Pologne.
C'est le moment de Khrouchtchev, hein, 56, je rappelle.
Oui, et il, c'est la mort de Staline.
Oui. Trois ans après la mort de Staline.
Il redevient premier secrétaire du Parti communiste polonais. Alors, les Polonais, et tous ceux qui s'intéressent à la Pologne, à l'Europe, etc., ont de grands espoirs. Ils se sont dit, bon, avec Gomulka, c'est un certain communiste libéral. Pas du tout. Gomulka, redevenu premier secrétaire, retrouve les réflexes, le comportement des bureaucrates communistes et la Pologne retourne un communisme sans doute moins violent que le communisme soviétique à proprement parler, mais enfin un communisme irrespirable. Mais il y a eu une petite bouffée d'air entre 56 et 59. Et Braudel, qui avait beaucoup de flair, a foncé dans cet éclairci. Il est allé à Varsovie et il a proposé aux historiens polonais un accord entre l'Institut d'histoire de l'Académie polonaise des sciences et l'École des hautes études en sciences sociales que Lucien Febvre et Marc Bloch avaient fondé.
Alors, nous allons y revenir. Là, nous allons prendre quelques minutes et nous allons revenir sur l'histoire de la Pologne.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademy.com.
Nous retrouvons Jacques Le Goff. Nous étions en Pologne où vous avez trouvé deux choses, ou plutôt deux personnes, l'amour et l'amitié.
Alors, je vais donc en Pologne en 59, envoyé dans le cadre de cet accord qu'a signé Braudel, par Fernand Braudel. Et alors, j'ai primo une chance et ensuite un miracle. La chance, c'est que on donnait à tout étranger ne parlant pas polonais qui venait officiellement en quelque sorte en Pologne, un jeune étudiant qu'on appelait un guide. Et mon guide, c'est Bronisław Geremek.
Ah, c'est comme ça que vous l'avez connu?
Oui. Et je dois dire qu'en 15 jours, nous devenons de vrais amis. Et en 15 jours, il m'apprend que même s'il est encore membre du Parti communiste, il estime qu'il n'y a plus rien à attendre et que ce qu'il faut, c'est préparer la chute du communisme. Ce qui, évidemment, me m'étonne énormément.
Rappelez quand même qui est Geremek, hein. C'est donc un historien, un homme politique.
Pas à ce moment-là.
Non, mais ça sera plus tard. Un historien, un grand homme politique et un grand européen. Voilà.
Bon, si vous voulez que je présente l'essentiel de Geremek dès maintenant, mais ça ne se produira que plus tard, Geremek sera un des artisans de la chute du communisme. Il deviendra pendant plusieurs années le ministre des Affaires étrangères du gouvernement non communiste qui suit la chute du communisme et ensuite député de la Pologne au Parlement européen. C'est aussi un médiéviste, ce qui renforce aussi nos liens.
Alors avec Geremek, second miracle, après Geremek...
Alors ensuite, un miracle, c'est que, d'une façon compliquée que je ne raconterai pas si vous me le permettez, mais tout à fait par hasard, je rencontre une jeune Polonaise qui n'est pas du tout historienne, car elle vient d'avoir son diplôme de médecine. C'est la sœur d'une historienne que je connais. Et j'en tombe éperdument amoureux. C'est le coup de foudre. Nous avons des relations pendant quelques mois. Et finalement, je vais épouser à Varsovie en septembre 62, c'est là le miracle, si on pense notamment à ce petit fait que je me permets de raconter, c'est que du jour où nous sommes vus, c'est moi qui lui ai écrit le premier, jusqu'à notre mariage, nous avons correspondu en anglais.
Oui, et donc c'était en cas.
Voilà, et c'était en cas. Et je viens de...
Vous venez de faire un petit livre, je crois.
Un petit livre qui paraît la semaine prochaine.
Chez Gallimard.
Chez Gallimard.
En souvenir d'Anka. Je regarde, oui, avec Anka. Ça s'appelle Avec Anka, de Jacques Le Goff, avec la photo d'Anka, d'ailleurs, qui est fort belle en couverture.
Oui, c'est à l'aéroport de Varsovie.
Alors, donc, Anka vous accompagne pendant toute cette vie, donc elle rentre avec vous, hein. Et puis vous devenez le médiéviste qu'on connaît. Là, on ne va pas raconter l'histoire parce qu'elle est très, 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 très longue et qu'on n'a qu'à lire vos livres, à vrai dire. Bon. Mais il y a quand même deux choses que j'aimerais vous demander. J'aimerais qu'on précise un tout petit peu votre vision du Moyen-Âge. Il y a une chose intéressante, c'est que donc, pour vous, le Moyen-Âge couvre une période de temps très longue, près d'un millénaire. À un moment donné, vous dites que peut-être elle commence, parce que ce qui est difficile, c'est de déterminer le début et la fin. Or, à un moment, vous dites, est-ce que c'est vrai que, est-ce que vous le pensez toujours, que ça débuterait à la fin du IVe siècle avec le passage du rouleau, je crois, au codex?
Non, c'est non. Si je peux dire, c'est quelque chose qui coïncide. Oui. Mais le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge est essentiellement marqué par le fait de la...
Fin de l'Empire romain.
Conversion,
oui,
au christianisme, que l'empereur Constantin se fait chrétien, Et à la fin du IVe siècle, le christianisme devient religion officielle. Ceci vient d'ailleurs à la fin d'une évolution qui n'est pas seulement religieuse, mais qui est aussi économique et politique, et en particulier par la décadence de l'Empire romain, qui cède la place à un autre monde. Et ce monde est fondé donc sur le christianisme, sur une économie essentiellement rurale, et pour moi, elle comporte aussi ce qu'on appelle l'Ancien Régime. Ce long Moyen-Âge ne se termine dans ses traits fondamentaux que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle qui part de l'Angleterre. La terre cessant d'être la base de l'économie, et la révolution politique qui vient avec la révolution française. Alors, il y a eu des Moyen-Âge.
Oui, vous dites que le premier Moyen-Âge, finalement, que vous décrivez, c'est les 300 ans qui vont de Constantin à Justinien. Ça, c'est intéressant, parce que vous dites que finalement, dans cette période qui couvre 300 ans, on oublie toujours qu'on parle toujours de l'Empire romain comme si c'était un tout. Et vous dites deux choses. Vous dites l'une, c'est que de Constantin à Justinien, c'est la grande période de l'Empire romain. Et on ne parle pas nécessairement latin, puisque dès Cicéron, on parle aussi grec chez les Romains.
L'Empire romain est divisé en deux parties. Il y a une partie occidentale qui parle latin et une partie orientale qui parle grec. Ça va se poursuivre, je dirais presque jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus que le christianisme va épouser cette division, puisque à l'ouest, c'est le christianisme latin romain qui va s'établir, tandis qu'à l'est, c'est le christianisme grec orthodoxe.
Alors, quelle est l'importance des barbares, finalement, dans cette histoire? Quel a été, selon vous, l'apport des barbares au tout début du Moyen-Âge, des invasions barbares?
D'abord, les barbares ont fait entrer dans le monde dit civilisé, et qui est l'héritier du monde gréco-romain, tous les peuples qui n'étaient pas, au sens sauvage du mot, des barbares, mais qui ne relevaient pas de l'Empire romain et de la culture gréco-romaine, c'est-à-dire les Celtes, les Germains et les Slaves pour l'essentiel. Et ils apportent donc leur culture. Un grand historien polonais actuel a récemment publié un ouvrage traduit en français, Karol Modzelewski, sur les lois barbares, et qu'il conclut en disant que il faut dire que le Moyen-Âge et l'Europe ont deux sources, le monde gréco-romain et les barbares.
Mais alors, est-ce qu'à ce moment-là, l'autre, vous parlez beaucoup de la chrétienté, bien entendu, puisque l'Europe, dites-vous, et sans vous la beaucoup reprocher, mais l'Europe, dites-vous, est un ciment chrétien. Avant toute chose.
On ne me l'a pas reproché parce que je ne l'ai pas dit.
Ah bon?
Non, j'ai toujours pensé que s'il est vrai que le christianisme a joué un grand rôle dans le développement de l'Europe, l'Europe ne s'est pas identifiée au christianisme et que c'est une volonté rétrograde de l'Église catholique aujourd'hui, de vouloir imposer ce point de vue qui n'est pas la vérité historique.
Est-ce que ce n'est pas l'évolution du mot barbare, justement? Est-ce qu'à l'époque, le barbare, ce n'est pas le non-chrétien?
Non. Le barbare, ce sont les Romains qui ont créé le mot.
Oui, mais est-ce qu'au Moyen-Âge, on ne l'a pas repris?
C'est Tacite, dans son livre de la Germanie, qui a parlé des barbares. Et puis ensuite, c'est l'école et l'université bourgeoise du XIXe siècle.
Oui. Vous dites souvent que vous êtes agnostique. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui agnostique? Surtout que vous, à une période où on parle tellement de religion, on parle tellement de l'islam, et vous-même, vous avez pris la défense de Guggenheim, qui a écrit un livre sur Aristote et l'Occident, et vous avez pris sa défense quand il a dit que peut-être on ne devait pas tout à un héritage arabe qui est passé par les Arabes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes revenus en des temps où agnostique ne peut plus se pratiquer, de la même manière que laïque ne peut plus avoir de sens? Est-ce que vous êtes un peu...
Non. Agnostique veut tout simplement dire ne pas croire à une religion déterminée.
Moi, est-ce que ça veut dire croire en Dieu?
Éventuellement.
À une transcendance.
Absolument.
À une transcendance sans Dieu
qu'on
déterminé.
Peut appeler Dieu, mais je crois à la transcendance de certaines valeurs. Je crois être agnostique, je ne suis pas athée.
Alors, la dernière question, c'est, vous avez créé une collection Faire l'Europe. Vous êtes un Européen archi-convaincu, si l'on peut dire. D'abord, pourquoi? Emmanuel Berle disait, est-ce que c'est votre opinion aussi, que nous sommes sur un seul continent avec l'Asie, qu'il n'y a pas de continent européen, et que ce qui nous distingue de l'Asie, c'est notre culture et une autre manière de regarder les choses?
Bon, si nous prenons la géographie, déjà, l'Europe est le bout, mais un bout très individualisé, du continent eurasiatique. En Asie, il y a de larges bandes qui sont soit de forêts, soit de champs qu'on a cultivés récemment. L'Europe est faite de toute une série de bandes qui font sa diversité, la diversité de son économie, et qui sont une caractéristique qui, à mon sens, sont parmi ce qui la distingue le plus fort de l'Asie. Non, moi je crois deux choses. Je crois que d'une part, avec bien sûr des différences, des diversités, l'Europe a eu la même culture. Il n'y a qu'à voir le phénomène de l'université, le phénomène des Lumières, le phénomène du romantisme.
L'héritage classique ?
L'héritage classique, absolument, c'est même le premier. L'héritage classique, tout ça, c'est européen. La seconde chose, c'est que je pense que face à un monde qui semble dominé par de grands blocs, il y a le bloc américain, le bloc chinois, il y aura probablement le bloc indien, et on peut parler, bien qu'il soit plus fragmentaire, du bloc musulman. Je crois que l'Europe, et là alors, c'est une question de survie. La culture, c'est une question d'alimentation, je dirais presque. Une certaine union politique, c'est une question de survie. C'est pour cela que ma conception de l'Europe, c'est beaucoup plus qu'une zone de libre-échange.
C'est notre cher Umberto Eco qui disait, enfin je sais qu'il vous est cher, en outre c'est lui qui a fait un des premiers papiers sur vous, vous êtes très proche. Il a dit à un moment donné que nous sommes finalement la fin de la décadence romaine, que la décadence de l'Empire romain se termine avec nous. Est-ce que vous auriez une vision aussi globale de la chose, ou est-ce que vous trouvez qu'il exagère un peu?
Non, nous... vous savez, Umberto est à la fois très intelligent, mais très provocateur.
Oui.
Là, je crois que c'est une provocation. Le monde gréco-romain, il est fini depuis assez longtemps. Il nous a laissé un héritage, et c'est un héritage, nous devons le faire vivre. Je regrette infiniment la quasi-disparition de l'enseignement du grec dans l'enseignement secondaire et le gros recul du latin.
Ça vous paraît essentiel pour former des esprits?
Important.
Oui, par l'universalité que ça apporte.
Important, oui.
Oui. Pour terminer sur une question ô combien bateau, mais mon Dieu, qui doit être posé. Est-ce que vous avez un certain optimisme aujourd'hui pour ce qui attend l'Europe? Est-ce que dans, vous qui avez connu le cher Raymond Devos, avec qui vous avez joué un sketch que je rappelle à tout le monde, il faut absolument que tout le monde le retrouve sur le web, je ne sais pas où il est ce sketch. C'était où? Quand est-ce que vous aviez joué ce sketch merveilleux avec Raymond Devos?
Je n'ai pas joué avec Raymond Devos, mais
oui.
Je l'ai moi-même imité.
Ah,
maladroitement,
oui.
Quand j'ai reçu la médaille d'or du CNRS.
Voilà. Alors, vous qui aimez tant l'humour aussi, et ça, c'est aussi un produit peut-être européen, l'humour. L'humour tel que nous le connaissons, ouais. Parce qu'il y a certainement un humour chinois.
L'Europe est diversité en même temps, ne pas l'oublier.
C'est vrai. Nous ne rions pas des mêmes choses. Mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, où on rit si peu, on a si peu le droit de rire de beaucoup de choses, est-ce que l'Europe a du ressort, de la ressource, ou est-ce que c'est de tu es vieille, tu es, vous savez, le chant de la Légion, tu es morte, vieille Europe, que le diable t'emporte.
J'en suis persuadé, et ce n'est pas, si j'ose dire... une profession de foi, mais je le crois profondément. Parce que il y a une des choses dont je suis depuis que, comme on dit, je fais de l'histoire, dont je suis persuadé, parce que ça me paraît évident. L'histoire avance lentement. Et nous sommes au début de l'histoire. Quand nous pensons à l'immense longueur de la préhistoire. L'histoire depuis, disons, le 10e siècle avant Jésus-Christ, c'est rien. 3000 ans, c'est rien. Et je crois que l'histoire va être longue.
Ouf !
Parce que je ne crois absolument pas, bien sûr, au millénarisme et à toutes ces... Je considère vraiment comme des falaises. Je crois que l'histoire est longue devant nous. Et je pense donc que l'avenir de l'Europe a beaucoup de temps devant lui. Je pense même qu'on est peut-être allé sur certains points trop vite.
Et donc
en
on
particulier
ralentira.
Dans l'élargissement, moi je crois qu'il faut ralentir mais approfondir. Surtout ne pas oublier la culture est un minimum d'unité politique. Il ne faut pas s'en tenir à l'économie. Et je crois que l'Europe va se faire lentement. Il me semble que c'est dans la force des choses. Parce que même si nous ne pouvons pas prévoir l'avenir, les historiens, pas plus, je dirais presque encore moins que les autres, il y a quand même une chose que nous voyons nettement se dessiner, ce sont ces blocs, ces ensembles dont je viens de parler. Et je crois qu'un de ces blocs sera forcément européen. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit solide et authentique. C'est pour cela que il a besoin d'une certaine passion, et ça manque terriblement. Ça manque terriblement, et ça manque d'abord dans les hommes politiques. Je dirais que l'Europe n'a pas, sauf exception, les hommes politiques et les femmes politiques qu'elle mérite. Je pense que transformation du personnel politique européen est une chose très souhaitable.
Et que la culture y soit, parce que savez-vous que dans l'Europe de Bruxelles, la culture n'est pas du tout une plateforme officielle. Ça n'existe pas.
Je peux dire, même si c'est pour terminer sur une note qui peut paraître au contraire pessimiste, mais il faut la replacer dans cette vision optimiste d'ensemble que je viens d'évoquer. Bonisar Guérémec, un mois avant sa mort tragique, me disait que la Commission de Bruxelles ne faisait pas véritablement son travail européen. Et je crois qu'il faut que l'on donne une vraie vie aux institutions européennes et que dans cette vie, comme vous l'avez dit, ma chère Elisabeth, la culture doit avoir une place prépondérante. Une des rares choses qui marche bien en Europe, ce sont les bourses Erasmus.
C'est vrai.
C'est petit, c'est une chose. Mais symboliquement, c'est ce qu'il faut faire.
Oui, mais que ça ne sert pas d'alibi.
Je connais un certain nombre d'étudiants qui en bénéficient, ils en sont profondément heureux.
Bon, alors écoutez, Erasme est parmi nous, donc Erasme, c'est déjà une référence. Vous
Absolument.
Savez, c'est Paul Valéry qui disait « Entrons dans l'avenir à reculons ». Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Jacques Le Goff, dont c'était le parcours de vie, parcours d'histoire. Merci Jacques Le Goff.
Merci Elisabeth.